Il y a un début de détente sur le marché pétrolier, début de détente aussi sur les places financières. Les Français, tout le monde attend de voir si le prix à la pompe va baisser. Sébastien Lecornu, Premier ministre, sera vigilant.
Lorsque la crise a démarré, les prix ont augmenté très très vite à la pompe, alors que les citernes avaient été achetées et remplies avant le début de la guerre. Donc autant que le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant qu'il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine. Et le ministre Papin, d'ailleurs, aura l'occasion d'y revenir sur différentes initiatives de contrôle. Et demain, les différents ministres discuteront avec les distributeurs pour s'assurer, évidemment, que les choses iront dans le bon sens.
Ça va être le thème de notre discussion dans le Signé Consigné ce soir avec Charles Consigné. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Agnès Pannier-Runacher, députée Ensemble pour la République, ancienne ministre. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Le Premier ministre dit on va veiller à ce que les prix des carburants baissent. Vous faites confiance à cette veille ministérielle, veille de Matignon?
Je vois d'ici le Premier ministre Lecornu avec son képi de gendarme autour des stations essence en France. Je pense que le gouvernement voit comme une bénédiction le cessez-le-feu en Iran. Après, on est tous contents de ce cessez-le-feu. On va pas, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que il marchait sur des œufs quant à ces hausses de prix de l'essence, et il se demandait, d'une part, si ça allait s'améliorer en Iran, et d'autre part, si une contestation plus ou moins violente allait finir par prendre en France du fait du prix de l'essence. Pourquoi? Parce que le gouvernement est à l'os, à mon sens, pour plusieurs raisons. D'abord, à cause des dépenses depuis 10 ans qui n'ont cessé d'augmenter. La dette a été alourdie de 1500 milliards à peu près sous Emmanuel Macron, ce qui n'est pas rien, parce qu'on est donc passé en gros de 2000 à 1500 milliards. Ce qui fait que les caisses étaient dangereusement vides pour faire quoi que ce soit. Le dernier budget, Lecornu, a encore aggravé le problème puisque ça a été un budget de dépenses. Et puis, soyons justes, les dernières mesures prises pour essayer d'amortir la hausse des prix de l'énergie sur les foyers et les entreprises françaises, qu'on avait appelé le bouclier énergie à l'occasion de la guerre en Ukraine, prise en réponse à la guerre en Ukraine, ont coûté très cher aux finances publiques. Moi, le chiffre que j'ai, c'est plus de 70 milliards à peu près d'euros entre 2021 et 2024. Donc quand même déjà des très grosses dépenses. Donc en gros, on est à l'os, à mon sens, parce qu'on a quand même dépensé l'argent n'importe comment et qu'on n'a pas fait assez de réformes, mais aussi parce qu'on a déjà dépensé pour protéger les Français de la hausse du prix de l'énergie. Et donc, on espère que tout ça va se calmer et que le prix de l'essence va baisser. Et j'en terminerai par là. Moi, je pense qu'on aurait pu déjà baisser les taxes et notamment supprimer ce qu'on appelle, que je crois vous défendez, les certificats d'économie d'énergie qui sont de l'ordre de 15 à 17
qui ont augmenté d'ailleurs en janvier.
Centimes d'euros par litre qui servent à financer la transition écologique. Je pense qu'on aurait pu faire une pause là-dessus, qu'on pourrait faire une pause là-dessus le temps que
les prix reviennent à la normale.
Alors,
vous avez croisé les doigts pour que ça s'arrête rapidement. Ça y est, vous dites ouf, ça y est, ça va baisser.
Alors, moi, je suis pas au gouvernement.
Bien sûr.
J'ai fait le choix de sortir du gouvernement au mois d'octobre dernier. Mais peut-être pour rebondir sur l'expérience que j'ai eue, puisque j'étais ministre en charge du climat et de l'énergie au moment de la crise de 2022. Oui, la crise de 2022-24, c'est, vos chiffres sont parfaitement exacts, monsieur Consigny, 70 milliards d'euros, grosso modo, de coûts pour le budget de l'État. Ça s'est additionné au coût du quoi qu'il en coûte, qui a quand même été assez considérable. Je pense qu'on en a tous c'était très heureux, mais aujourd'hui, ça pèse évidemment dans la dette. Et ça s'est additionné à la dérive de nos comptes de retraite, pas parce que nous sommes de mauvais citoyens, mais c'est une bonne nouvelle, les gens vivent plus longtemps, ils ont plus longtemps des retraites, et effectivement, le système n'est pas financé aujourd'hui, en dépit des réformes que nous avons commencé à en faire
et des réformes qui ont été suspendues, on va rappeler comme
non, qui a été décalée d'un an, pour être parfaitement exact, puisque
qui coûte de l'argent.
Mais comme vous le savez, c'est 300 millions d'euros, donc on n'est pas du tout dans les mêmes montants des 50 milliards. Mais ce décalage d'un an, il pèse aussi, et c'est une réforme qui n'était pas populaire. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ça. Donc ça montre que ces réformes structurantes ne sont pas toujours faciles à faire et que nous n'avons pas le suivi, notamment de groupes qui se flattent.
On était à l'os,
formidable.
On était à l'os,
comme les
du
républicains.
Fait de ces gestions. On était à l'os, donc on ne peut pas aider les Français lorsqu'il y a une crise, contrairement aux Espagnols, le gouvernement espagnol qui a aidé sa population, ou l'Italie également.
Alors, peut-être d'abord, si on aide, parce que on aide les pêcheurs, on aide les agriculteurs, on aide des professions qui sont très directement concernées. Je pense qu'elles ne considèrent pas que c'est modeste. En tout cas, elles en ont besoin et le gouvernement a répondu présent. Mais surtout, moi, je veux vous faire partager mon expérience du sujet. Les 9 milliards d'euros qui nous avaient été imposés par le Sénat à l'époque, en 2022, en échange de son soutien du budget, puisque en 2022, comme vous vous en souvenez, il n'y avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Ces 9 milliards d'euros, c'était qu'un centime de moins sur le coût du litre. Ce qui s'est passé, c'est que des centaines de milliers de frontaliers à nos frontières sont venus faire le plein en France. C'est que les transporteurs routiers étrangers allaient plutôt faire le plein en France qu'en Belgique, en Suisse, au moment de passer la frontière. C'est que nous avons dépensé 9 milliards d'euros et que aujourd'hui nous payons l'addition, nous les Français, sous forme de moindres prestations, de plus d'impôts. Donc on sait une chose, c'est que des mesures qui sont pas ciblées, des mesures qui sont pas ciblées ratent leur cible. Et c'est pas pour ça que ceux qui avaient été les plus touchés par la crise énergétique s'en trouvaient bien. D'où la nécessité, me semble-t-il, mais moi c'est, je dirais, l'humble retour d'expérience que je fais par rapport à ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est que ces 9 milliards d'euros ont été mal employés. Ces 18 ans d'électrification, ces 18 ans de bonus écologique qui nous auraient permis de mettre à l'abri peut-être 1 à 2 millions de Français par rapport à la crise auxquelles nous faisons face aujourd'hui.
Honnêtement, je suis pas sûr.
Que ça aurait mis à l'abri les Français,
Plusieurs choses. D'abord,
1 à 2 millions de Français, c'est pas rien.
D'abord, je suis pas sûr que les 9 milliards d'euros du Sénat soient exclusivement responsables des 1 500 milliards d'euros de dettes créées en 10 ans par les
Macronistes. C'est pas du tout ce que je dis. Et par ailleurs, je redis que la dette, elle a été créée aussi, il faut le reconnaître, par le quoi qu'il en coûte, par l'augmentation des salaires des aides-soignantes, des infirmières, médecins en début de carrière, par l'augmentation des salaires des professeurs des écoles en début de carrière. Autant de mesures sur lesquelles pas beaucoup de monde aujourd'hui ne serait à revenir.
Non, même s'il y a des choses à faire sur le temps de travail, notamment dans l'éducation nationale. Mais c'est pas ça qui a fait les 1 500 milliards d'euros de dette. C'est qu'il n'y a pas eu de volonté de faire des économies. Vous pouvez le reconnaître. D'ailleurs, tous ceux qui connaissent bien le président de la République savent que ça ne l'intéresse pas du tout de faire des économies. C'est pas grave. Il a d'autres priorités. C'est grave.
Mais j'ai un contre-argument parce que vous semblez pas vous souvenir d'une chose. C'est que c'est pourtant le président de la République et son premier ministre, Édouard Philippe, qui fait sortir la France de la situation de déficit excessif dans lequel elle était depuis 20 ans. En 2018.
C'est dommage.
Et donc, ça montre bien que ça faisait partie, à l'époque, de l'ordre du jour. Mais malheureusement, vous avez raison, en 2020, crise Covid, en 2022, crise énergétique suite à la guerre en Ukraine. Et nous avons beaucoup de gens.
Et pourtant, ils gèrent mieux que nous.
Tout à fait. Mais moi, à l'époque, j'étais au Parlement quand il fallait. Enfin, j'étais au banc des ministres, vous savez. Vous avez donc les oppositions.
Moi, je veux bien.
Personne n'était prêt à ne pas faire de gestes pour les Français.
Je suis désolé, mais les 1 500 milliards, ça peut pas être juste les sénateurs, les aides-soignants et les professeurs. Parce que c'est charmant.
Non, mais savez, à coût de 10 milliards d'euros par an, sur 7 ans, ça fait 70 milliards.
Dit comme ça,
vous multipliez les milliards, 70 plus 70 plus 300 sur...
C'est marrant parce que quand on fait des propositions de réduction de dépenses publiques, on propose ceci, on propose cela, je vais pas ressortir tous les marronniers qui font la une des hebdomadaires régulièrement, on nous rétorque toujours, c'est pas avec ça que vous ferez des économies, c'est pas avec ça, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de vraie volonté de faire des économies. C'est pas grave. De même, sur les retraites, vous êtes quand même un petit peu gonflé d'expliquer que les réformes courageuses sur les retraites ont été faites, alors que pendant le premier quinquennat, il n'y a pas eu de réforme du tout. Et pendant le deuxième, il y a une réforme qui a été détricotée.
Est-ce qu'on peut se rappeler quand même
pour sauver le bloc central à l'Assemblée?
C'est quand même ça qui s'est passé. Monsieur Consigny, remettons quand même les choses en place. La réforme des retraites, elle est votée. Elle est votée un mois.
Vous avez été scrupuleux sur la gestion des deniers publics.
La réforme des retraites du premier quinquennat, je suis désolée, on a la mémoire courte, elle est votée un mois avant le Covid. Elle est votée en février 2019.
Non mais
février 2020.
Moi, je veux bien,
c'est très facile de refaire le monde tel qu'il était, il y a
les promesses présidentielles.
Là, en l'occurrence, c'est...
En l'occurrence, en 2022, il n'y avait plus de majorité. En l'occurrence, les Républicains qui soutenaient une retraite à 65 ans ont refusé une retraite à 64 ans. Une partie du groupe s'est dissipée au moment du vote.
Madame Pannier-Runacher, moi, je veux bien, mais...
Donc, vous voyez...
Non, parce que les Français ont vu, franchement, les Français ont vu ce qui s'est passé pendant le vote du budget. Ils ont vu que les députés du Bloc central, pour sauver leur place, ont été prêts à passer pertes et profits.
Je suis très à l'aise avec ça. Nous avons soutenu.
La seule réforme des retraites qui a été faite par Macron et qui était déjà insuffisante, tout. Or, les retraites, quart du budget de l'État.
L'année blanche, voilà, monsieur Consigny, essayons d'être précis. L'année blanche, c'est 4 milliards d'euros.
Ouais.
L'année blanche, c'était, par exemple, indexer la retraite de personnes qui ont des retraites supérieures à 3 000 euros. Tout ça est financé par, aujourd'hui, les classes moyennes, les classes qui travaillent, qui, en moyenne, gagnent plutôt de l'ordre de 1 800 milliards d'euros. Aucun autre groupe que les groupes du Bloc central étaient prêts à rentrer dans le détail pour dire il y a peut-être un effort à faire sur certaines retraites.
C'est pas ça qui s'est passé.
Non, mais si, c'est ça qui s'est passé.
Oui, mais moi,
j'y étais, monsieur Consigny. J'ai vu la manière dont les Républicains, main dans la main avec le Parti Socialiste, se sont opposés à rentrer dans le dur de la discussion.
Est-ce que vous étiez dans le pavillon de musique à Matignon, vous savez, ce petit bâtiment charmant dans le fond du parc de Matignon où Sébastien Lecornu dealait avec Olivier Faure l'absence de censure des socialistes en échange de l'abandon de la réforme des retraites.
Monsieur...
Ça, vous n'y étiez pas.
Non.
Mais ça, par contre, ça se faisait, vous voyez, dans tout le raffinement français. Hein, on était reçus
monsieur
là
Consigny,
par les huissiers en livrée avec un petit Chambol Musigny. Pourquoi pas un petit cigare pour les amateurs, un petit digestif. Je sais que c'est très à la mode en Macronie.
C'est une espèce de fantasme que
ça n'est pas du tout.
Mais il n'y a pas plus transparent que le vote.
Et c'est là qu'ils ont
le Chambol Musigny compris.
Fort a obtenu. C'est un vin très 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 matignonesque, très français. Fort a obtenu les scalpes qu'il voulait pour faire croire que les socialistes négociaient quelque chose. Et Lecornu a obtenu de ne pas être censuré.
C'était
au nom de la stabilité gouvernementale.
Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est que
les votes ils se font au Parlement et ils sont publics. Donc on peut raconter ce qu'on veut sur le salon de musique, et je salue le Chambol Musigny qui est un excellent vin.
On confirme.
Mais on peut raconter ce qu'on veut sur
tout
le salon de musique.
La presse autorisée, hein.
Tout ça, surtout ce qui se passe au Parlement, est public.
Est public.
Et donc vous pouvez consigner, amendement par amendement, qui a voté quoi et qui a lâché les principales dépenses. Ce sont les Républicains. Qui a voté 26 milliards d'euros d'augmentation, 26 milliards d'euros d'augmentation des impôts? C'est le Rassemblement National. Il a fallu le nettoyer derrière eux. Donc attention aux hypocrites et aux tartuffes. La réalité,
Madame Pannier-Runacher, reconnaissez quand même qu'on aurait aimé que la France ait de quoi aider.
Mais j'étais
un
la
peu
première
plus
à le vouloir.
D'aider
et la
un peu
première
plus
à soutenir des amendements de réduction des dépenses.
Attendez.
La première.
Puisque là, on parle du carburant. On aurait aimé que la France ait les moyens d'aider un peu plus les Français. 7 Français sur 10 prennent chaque jour la voiture pour aller travailler, pour se déplacer. Il y a eu très peu d'aide, très ciblée, mais plein de professions ont été oubliées. On aurait aimé que la France, la grande France, 7e puissance de France du monde, et les moyens d'aider sa population, elle ne les a plus. C'est ça qu'on peut regretter.
Mais parce
qu'on peut se rejeter la faute sur les Républicains.
On n'est plus.
Vous avez raison de dire que pour 7 Français sur 10, c'est un moment particulièrement difficile. Vous savez, moi j'habite le Pas-de-Calais, j'ai une circonscription qui est très largement rurale. Donc des gens, des Français qui sont en difficulté, j'en vois tout le temps.
Eh bien, les Français,
on en discute tout le temps. Je rappelle, moi j'ai réuni les entreprises de mon territoire il y a 3 semaines, au début de la crise, justement pour savoir quels étaient leurs besoins. Et c'était intéressant de les entendre, parce que ce qu'ils nous ont dit quand même, c'est faites des mesures ciblées.
Ouais.
Si vous saupoudrez de l'argent, comme la dernière fois, et c'est un reproche qu'on peut nous faire, si vous saupoudrez...
Elles ont été tellement ciblées qu'elles ont touché quand même très peu de monde.
Si vous faites des mesures qui sont aussi ouvertes que la dernière fois, nous on connaît la suite de l'histoire, c'est des impôts en plus.
C'est un produit qui est taxé à 50%, le carburant.
Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même un problème de logique. D'abord, il y a un problème de vision quand même dans une certaine famille politique qui vogue au gré du vent et au gré des modes.
Emmanuel... Vous parlez du RN ?
Non.
Ah bah si,
désolé, non.
Pourtant, c'est eux qui...
Mais laissez-moi
ils sont dire pas au pouvoir.
Peut-être plus de trois mots de suite. Emmanuel Macron, au début de son mandat, et tous les macronistes, étaient contre le nucléaire. J'ai retrouvé des tweets de l'inénarrable Brune Poirson qui se félicitait de fermer 19 réacteurs nucléaires sur le territoire français. 14, 19, on est plus à ça près, vu qu'on est en 1500 milliards. Bon, eh ben aujourd'hui, ils sont évidemment pro-nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aperçoivent que c'était peut-être utile quand même d'avoir des centrales nucléaires. Emmanuel Macron, quand il était... dans la commission Attali qui devait libérer la croissance, il expliquait doctement à tous les gens qui l'ont soutenu ensuite pour la présidence de la République qu'on pouvait aussi se passer de la bombe nucléaire, parce que la bombe nucléaire coûte 4 milliards d'euros par an et que donc on aurait
Écoutez,
fait 4
moi,
milliards
je,
de communes.
Je ne sais pas donc, si pour vous voulez, les dire, récits apocryphes
tout ça est documenté.
Peut-être.
Et enfin. Vous soutenez, moi ce qui me gêne, c'est qu'au fond, vous soutenez cette logique. Par exemple, ces taxes de 15 centimes pour financer des éoliennes ou de
l'électricité. Pourquoi
la suspendez? C'est pas une taxe.
C'est pas dans le budget.
Qu'est-ce que vous appelez qui n'est pas une taxe? C'est prélevé, les gens le payent. Pourquoi ça
en
n'est
réalité,
pas une taxe?
Si on n'avait pas, comme l'a demandé le Rassemblement National et un certain nombre de Républicains, fermer ces certificats d'économie d'énergie, ils vaudraient deux fois moins cher. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Premier ministre a demandé une mission pour élargir ces certificats d'énergie, parce que ces certificats
donc,
d'économie d'énergie, si je peux aller jusqu'au bout, parce que ces certificats d'économie d'énergie, ils financent l'électrification des véhicules. Mmh. Ils permettent à monsieur, madame, tout le monde, pour 100 euros par mois, d'avoir une voiture électrique
social.
Qui leur coûte beaucoup moins cher. Mmh. Ça, c'est ce que permet ces certificats d'économie.
Prendre quelques mois le temps de passer cette crise.
Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un système privé, contrairement à ce qu'on raconte. Et c'est un système qui fonctionne. Plus il y a de choses à financer, plus le coût du certificat d'économie d'énergie est faible. Donc la réalité, c'est qu'à force de restreindre la transition énergétique, on a réussi à la fois à monter le coût des certificats d'économie d'énergie, mais aussi à retarder le fait de mettre à l'abri les Français en leur permettant, notamment, mais parmi d'autres choses, d'avoir accès à des voitures électriques.
Merci de cette discussion, Charles Consigny, Agnès Pannier-Runacher.